Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du jeudi 21 janvier 2016. Au sommaire ce soir...
L'ONU réussira-t-elle à faire accepter le déploiement d'une force de maintien de la paix au Burundi? Bujumbura accueille ce jeudi une délégation du Conseil de sécurité.
Au sorti de l'aéroport, des pancartes indiquent que le Burundi est une seule nation où le génocide n'existera jamais avec le gouvernement de Pierre Nkurunziza.
Après les attentats au Burkina Faso, le président Idriss Déby Itno se rend à Ouagadougou pour exprimer la solidarité du peuple tchadien.
En République centrafricaine, la Cour constitutionnelle de transition promet pour lundi les résultats définitifs des élections.
C'est ainsi encourageant que tous les candidats qui se sont estimés lésés aient saisi la Cour constitutionnelle de transition.
Côte d'Ivoire, le procès des assassins présumés du général Robert Guéhi a été renvoyé au 25 janvier.
Le secrétaire d'État américain John Kerry dit qu'il n'y aura pas de retard fondamental dans les négociations internationales sur l'avenir politique de la Syrie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Crise au Burundi, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU venus de New York sont arrivés à Bujumbura. De nombreux pays, dont les États-Unis, appellent le gouvernement à accepter un dialogue inclusif. La médiation onusienne espère convaincre le président Pierre Nkurunziza et obtenir le déploiement d'une force africaine de maintien de la paix. Mais d'ores et déjà, les partisans du pouvoir venus nombreux à l'aéroport international de Bujumbura ont affiché leur refus catégorique du déploiement d'une telle force. Reportage de Christophe Nkurunziza depuis Bujumbura.
Aucun mot de la part de cette délégation onusienne qui a fixé pour demain 16h GMT une conférence de presse. Mais juste, au sorti de l'aéroport, des pancartes indiquent que le Burundi est une seule nation où le génocide n'existera jamais avec le gouvernement de Pierre Nkurunziza, élu en juillet de l'année dernière, malgré le boycott de l'opposition. D'autres pancartes affirment que le seul moyen pour accéder au pouvoir au Burundi passe par les élections et non par la violence. Tambour, des chansons qui demandent « Et le Burundi n'a pas besoin des forces étrangères » ont accueilli les 33 membres de la délégation. Beaucoup de taxis-vélos étaient également venus accueillir cette délégation qui pourra demander aux autorités burundaises d'accepter l'envoi d'une force africaine comme le souhaite le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Une tâche difficile, surtout que le président de la République les recevra au centre du Burundi à Karuzi et le Conseil de paix et de sécurité du Burundi ont toujours récusé l'envoi d'une force africaine ou onusienne. Wait and see pour cette deuxième mission du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies en une année. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Toujours au Burundi, le général Godefroy Niyombare a été placé à la tête des Forebu, la rébellion mise sur pied en décembre pour chasser le président Pierre Nkurunziza du pouvoir. C'est ce qu'annonce le mouvement dans un document sonore transmis à l'AFP. Le général Niyombare, souvenez-vous, a dirigé le putsch des 13 et 14 mai 2015 au Burundi.
En République centrafricaine, la Cour constitutionnelle de transition s'est enfin prononcée sur l'évolution d'examen des requêtes soumises à la Cour. Dans un communiqué de presse, la haute juridiction a fait le point sur la proclamation des résultats définitifs tant attendus. Les précisions de Freeman Sipila.
C'est la première fois depuis le début d'examen des contentieux électoraux que la Cour constitutionnelle de transition se prononce sur le processus. Selon le communiqué signé de son porte-parole Flavien Bataille et rendu public ce 21 janvier, la Cour a enregistré en bonne et due forme 402 requêtes pour les élections législatives et 5 pour le scrutin présidentiel. Après examen, la haute juridiction indique qu'elle rendra ses décisions sur les résultats définitifs de ces élections du 30 décembre 2015, le 25 janvier 2016 à 10h dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Bangui. Mardi, Regina Konzimongo, la seule femme parmi les 30 candidats à la présidentielle, a annoncé avoir retiré sa requête soumise à la Cour dans le but de préserver le climat de paix. En attendant la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle de transition, plusieurs voix se sont d'ores et déjà élevées pour appeler au calme et au respect des décisions de la justice. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Enquête sur les attentats de Ouagadougou. Monsieur Roupeid, le candidat à la présidentielle au Niger, a été libéré d'après une source sécuritaire citée par l'AFP. De même pour le responsable de la rébellion Touareg du mouvement national de libération de l'Azawad pour la province orientale du Gourma, Souleymane Al-Aklinan. Ils sont libres, a souligné la source. Deux jeunes Touareg restent toujours détenus dans le cadre de cette affaire. Les quatre personnes qui ont conversé avec les djihadistes selon une vidéo de surveillance de l'hôtel Splendid étaient entendues mercredi. Aucun élément ne permet de dire si la conversation portait sur l'attaque.
Niger, les 10 officiers et le civil interpellés mi-décembre pour tentative de coup d'État ont été inculpés d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils sont sous mandat de dépôt depuis hier soir. L'enquête de la gendarmerie se poursuit concernant 10 autres civils, des opposants essentiellement accusés de complicité. Détail à Niamey avec Abdulrazak Idrissa.
Le général Salou Souleymane, le présumé cerveau de cette tentative de coup d'État, et quelques autres officiers sont placés à la prison civile de Kolo à une vingtaine de kilomètres de Niamey. Son fils aîné, arrêté également dans le cadre de cette affaire, est lui écroué à la maison d'arrêt de Niamey avec 4 autres militaires. Le lieutenant Lawala Ambali, qui avait déjà été arrêté puis blanchi en 2011 pour des faits similaires, est encore parmi les officiers arrêtés. Il a été placé sous mandat dépôt à Walam à environ 200 km de la capitale. Le reste des personnes impliquées vont garder prison à Saï, une localité située à 50 km de Niamey. L'information judiciaire est ainsi ouverte. Le jugement se tiendra devant le tribunal militaire. Par ailleurs, la gendarmerie poursuit les enquêtes pour ce qui est de la dizaine de civils composés essentiellement d'opposants militants du parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, et des 3 douaniers interpellés dans le cadre du même dossier. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, le procès des assassins présumés du général Robert Guéhi a été renvoyé au 25 janvier. Ex-chef de la junte, Robert Guéhi avait été tué en 2012. Sur le banc des accusés figurait notamment le général Dogbo Blé, ex-homme fort du régime de Laurent Gbagbo, et Anselme Seka Yapo, ancien responsable de la sécurité rapprochée de Simone Gbagbo. Les avocats de la défense estiment que les faits sont couverts à la fois par une amnistie et la prescription de 10 ans.
Un procureur de la Cour pénale internationale a présenté aujourd'hui au juge 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le dossier de l'ancien chef de guerre ougandais Dominique Ongwen. Selon le procureur, il était le fer de lance de la sanguinaire rébellion de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. John Lyndon.
Surnommé la fourmi blanche, Dominique Ongwen était un des commandants les plus redoutés de l'armée de résistance du Seigneur, menée par Joseph Kony, rendu mondialement célèbre par la campagne Kony 2012. En dépit de sa jeunesse, Ongwen a très vite été repéré pour sa loyauté dans le crime, son courage au combat et ses qualités de tacticien. Mais certains groupes de défense des droits de l'homme estiment que Dominique Ongwen est à l'origine lui-même une victime. À 14 ans, il a été enlevé pour devenir enfant soldat alors qu'il rentrait de l'école. Selon l'accusation, il doit répondre de 70 chefs d'accusation, dont esclavage sexuel, meurtre et enrôlement d'enfants soldats. L'ONU accuse la LRA d'avoir tué plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants. La LRA s'est forgée une effroyable réputation au fil de ses exactions en Ouganda, au sud du Soudan, dans le nord-est de la République démocratique du Congo et en Centrafrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Selon le secrétaire d'État américain John Kerry dit qu'il n'y aura pas de retard fondamental dans les négociations internationales sur l'avenir politique de la Syrie devant débuter la semaine prochaine. Kerry parlait en marge du Forum économique mondial de Davos en Suisse à la suite d'une réunion aujourd'hui avec l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Les pourparlers entre l'opposition et le régime de Bachar al-Assad doivent commencer le 25 janvier à Genève, mais mais des doutes persistent encore sur l'identité des groupes d'opposition qui y prendront part.
Le chef de l'Organisation de la coopération islamique, Iyad Madani, a prôné l'apaisement entre l'Arabie saoudite et l'Iran pour faire face aux véritables défis dans le terrorisme qui menace les pays musulmans. Il s'exprimait, indique l'AFP, lors d'une réunion à Jeddah, tenue à la demande de Riyad. Suite à la mise à sac le 2 janvier de la mission diplomatique saoudienne à Téhéran, plusieurs pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec Téhéran, d'autres ont réduit leurs relations, tandis que le Koweït et le Qatar ont rappelé leur ambassadeur en Iran.
Enlèvement probable d'un journaliste de la chaîne de télévision Al Jazeera au Yémen, Hamdi Al-Bokhari, est porté disparu selon l'AFP. La chaîne du Qatar a précisé avoir perdu contact depuis lundi soir avec ce journaliste qui couvrait les combats entre les forces loyalistes et rebelles.
En Haïti, sur fond de manifestations violentes, l'opposition fait tout pour empêcher l'organisation du second tour de la présidentielle dimanche. Au premier tour, le candidat soutenu par le pouvoir, Jovenel Moïse, a devancé Jude Célestin, proche de l'ex-président René Préval. Mais Célestin refuse de prendre part au second tour. Ce jeudi, le président haïtien Michel Martelly a confirmé à une radio de la capitale, Radio Métropole, la tenue du scrutin tout en se disant disposé à négocier.
Il y a des concessions qu'on a fait parce que Bagala est important. Mais
nous pourrions faire certaines concessions vu l'importance de la question. Mais quand on trouve dans l'autre camp ce que je qualifierais de mauvaise foi, allez-vous nous demander d'agir en inconscient, de rester indécis, dit Martelly. Nous représentons l'État. L'ONU, l'OEA et l'Union européenne ont appuyé la poursuite du processus électoral, lequel a déjà coûté environ 100 millions de dollars, alors qu'Haïti est le pays le plus pauvre de la région.
L'hiver se fait finalement sentir dans l'est des États-Unis. Washington et sa région ont été saupoudrés de neige hier, causant de gros problèmes sur les routes. Mais la météo prévoit le pire pour ce week-end.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
Au Sénégal, imbroglio entre l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP et les opérateurs télécoms locaux actifs pour l'utilisation des technologies mobiles 4G. Ni Sonatel, ni Tigo, ni Expresso n'ont proposé d'offres pour la 4G dont la licence a été fixée à 30 milliards de francs CFA, soit 45,7 millions d'euros. Pour Sonatel, filiale du groupe français Orange, à ce prix, la licence 4G ne leur permettrait pas de créer de la valeur ajoutée, surtout lorsque d'autres pays africains tels que le Maroc, deux fois plus peuplés et trois fois plus riches doivent payer le même prix. Le directeur général de l'RTP, Abdou Karim Sall, déclarant qu'il s'agissait d'un manquement grave, indique que l'autorité de régulation se réserve le droit d'appliquer les sanctions appropriées à l'égard des opérateurs télécoms nationaux. Deux nouvelles succursales au Bénin et au Sénégal pour le groupe bancaire burkinabé Coris Bank International. Déjà présent en Côte d'Ivoire, au Mali et au Togo, Coris Bank considère l'Union économique et monétaire ouest-africaine comme un marché potentiel et veut bâtir une banque panafricaine. L'an dernier, la banque affichait un bilan de 640 milliards de francs CFA, soit environ 975,6 millions d'euros. La production du café camerounais en baisse. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, CICC, a annoncé 23 875 tonnes de production en 2015, soit une baisse de 27,26% par rapport à la campagne précédente. Une offre insuffisante des semences et des intrants et l'âge avancé des producteurs expliquerait cette baisse. La prochaine campagne caféière au Cameroun commence demain, 22 janvier 2016.
Merci Arzuma pour la Minute Éco.
En studio, Bagassi Koura pour les sports. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Deuxième journée du groupe B du championnat d'Afrique des Nations.
Oui, c'est au Rwanda et la RDC a battu l'Angola 4 à 2 dans la deuxième rencontre qui a cours en ce moment. Match nul entre le Cameroun et l'Éthiopie.
L'ancienne star ivoirienne Basile Boly, relaxée par la police française.
Oui, la cour d'appel de Versailles a relaxé ce mercredi l'ex-footballeur Basile Boly qui était poursuivi pour abus de confiance dans la gestion d'une association de coopération avec l'Afrique qu'il dirigeait. L'ancien défenseur central de Marseille et de l'équipe de France, 49 ans, et son ex-bras droit Patrick Jivanovic ont toujours clamé leur innocence. Ils ont tous les deux été relaxés. La justice chérubin les soupçonnait d'avoir détourné 250 000 euros de fonds provenant d'une subvention entre 2007 et 2008, alors qu'ils étaient respectivement secrétaire général et délégué général de cette association.
Football toujours, sanctions en Allemagne.
Oui, le comité de discipline de la Fédération allemande de football a sanctionné ce jeudi l'Eintracht Francfort d'une amende de 75 000 euros et ordonné l'exclusion partielle de ses supporters après des débordements lors des rencontres de championnat et de coupe d'Allemagne.
Et quelques résultats dans la NBA.
Eh bien, après Cleveland, lundi, Golden State a écœuré Chicago, 132, un autre prétendant au titre de NBA, 125 à 94. Et dans la quatrième, a remonté par leur quatrième défaite de la saison samedi à Détroit, leur deuxième défaite en trois jours, les Warriors ont retrouvé leur meilleur basket.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériac et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, la RCA.
En Centrafrique, certains acteurs de la société civile ont bien accueilli la promesse de la Cour constitutionnelle de publier les résultats définitifs des élections le lundi 25 janvier. Un second tour est prévu le 31 janvier. Au micro de Timothée Donangmaï, nous écoutons Maître Bruno Hyacinthe Gbieba du Centre de l'Observatoire national des élections en Centrafrique.
Je ne peux pas aujourd'hui apprécier les recours, parce que c'est la loi qui a prévu que toute personne qui a participé aux élections, si elle estime qu'elle a des griefs à formuler, elle saisit la Cour constitutionnelle de transition. Donc aujourd'hui, c'est ainsi encourageant que tous les candidats qui se sont estimés lésés aient saisi la Cour constitutionnelle de transition pour dénoncer ce qu'ils estiment irrégulier.
La Cour a publié un communiqué pour dire qu'elle va se prononcer le 25 janvier sur les différents recours. Alors, comment voyez-vous le rythme auquel la Cour procède?
À part ce communiqué qui dit qu'elle va rendre la décision le 25, mais elle ne nous a donné aucune information concernant le rythme de son travail. Donc, tout le monde est collé aujourd'hui à son poste pour attendre la proclamation des résultats définitifs de ces élections, surtout les présidentielles.
Il y a eu quelques préoccupations après la présidentielle, lorsqu'une vingtaine de candidats ont contesté le processus électoral. Est-ce que ces préoccupations ont aujourd'hui disparu?
Moi, je pense que c'était pas sérieux de leur part. Tout le monde savait que nous, on était en train de tirer dans tous les sens pour aller obligatoirement aux élections et cela devait comporter inévitablement des erreurs. Tous les candidats ont accepté de participer à ces élections dans ces conditions parce qu'eux-mêmes, ils disaient mieux vaut une élection mal préparée. Et tout le monde savait que les élections étaient très mal préparées. On a même réduit les délais de recours. Ils ont accepté parce que chacun croyait déjà qu'il était sur le fauteuil. Donc on ne peut pas, après avoir accepté de participer aux élections dans ces conditions, et revenir, mais attendre que l'on commence à publier les résultats et après les scores ridicules qu'ils ont reçus, ils commencent maintenant à se plaindre. Ce n'est pas normal.
Qu'est-ce que ces élections vont apporter aux Centrafricains?
Non, mais les élections dans la vie d'une nation, la RCA, c'est un État en démocratie qui est en train de se créer une voie parmi les États démocratiques dont les élections font partie de ces étapes. Et donc, nous, ces élections permettront la désignation de nouvelles autorités qui vont continuer dans la lignée de ce que les autres ont fait, mais au moins, nous allons jeter les bases d'une démocratie.
Maître Bruno Hyacinthe Gbieba, joint à Bangui.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le point sur la récente attaque djihadiste au Burkina Faso, mais aussi plus largement sur la menace terroriste devenue omniprésente en Afrique. Que doivent faire les pays africains pour enrayer la menace et contrecarrer les tentatives de déstabilisation par les groupes djihadistes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h.
Retour sur les attentats de Ouagadougou. La controverse sur le nombre des assaillants se poursuit. Le Premier ministre français Manuel Valls a parlé en début de semaine de 3 djihadistes tués par les forces de sécurité et 3 autres recherchés. Mais le ministre burkinabé de la communication et porte-parole du gouvernement, Rémi Dandjinou, a une autre version des faits. Ses explications au micro de John Lyndon.
Et peut-être les informations du Premier ministre français. Ce que je vous donne, c'est les informations que me donne l'état-major burkinabé qui est sur le terrain avec la police scientifique française, 11 personnes, les gendarmes français, 6 personnes et le FBI américain, 5 personnes. Et aujourd'hui, les vidéos de l'hôtel nous permettent d'identifier effectivement 3 personnes qui tiraient sur la foule. Les services de renseignement et la police, la gendarmerie burkinabé, ont appréhendé un certain nombre de personnes et les enquêtes se poursuivent pour savoir à quel niveau elles ont pu être impliquées dans cette attaque de Ouagadougou ou dans les autres attaques que le Burkina a connues. Mais je tiens à affirmer de façon très claire et précise qu'aujourd'hui, ces 3 personnes qui ont été abattues, et ces 3 personnes-là sont celles que l'on voit figurer sur les vidéos pendant l'attaque. Il peut y avoir d'autres personnes, mais pour l'instant, les enquêtes et le travail de la police scientifique ne nous permettent pas d'avoir une telle affirmation.
Est-ce qu'à ce jour, d'autres mesures de sécurité ont été prises pour éviter une autre attaque du genre?
Oui, absolument. Depuis donc cette attaque, le chef d'État, son excellent Frok Makissian Kabore, a instruit donc le ministre de l'administration territoriale, le ministre d'État, M. Simon Compaoré, et l'État-major pour que le niveau de vigilance soit rehaussé. Ainsi donc, les contrôles ont été systématisés au niveau de toutes les grandes villes du Burkina, à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur. Des patrouilles militaires sont présentes dans toutes les rues principales, dans les lieux où il peut y avoir effectivement des attroupements de personnes, dans les marchés. Le couvre-feu a été un temps allongé, mais il a été depuis ramené à une durée respectable de 1h du matin à 4h du matin. Il y a d'autres mesures telles que la vidéosurveillance dans les villes qui vont être réactivées en urgence. Donc il y a une série de mesures qui sont mises en place et qui permettent aujourd'hui de faire monter le niveau de vigilance de l'ensemble des forces armées et de sécurité, mais également de la population.
Un autre sujet qui a fait la une dans les médias du Burkina ces derniers jours, la présidence ivoirienne se dit surprise par le mandat d'arrêt qui a été lancé contre Guillaume Soro.
Oui, il y a dans le fait une séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'exécutif, donc la justice fait son travail. Pour l'instant, les Burkinabés sont concentrés sur la question de la gestion de ces attaques-là qui a fait quand même 30 morts. Il y aura un temps effectivement pour que le gouvernement burkinabé réagisse sur ces questions-là qui sont des questions effectivement diplomatiques extrêmement sensibles. Mais nous sommes concentrés aujourd'hui sur essentiellement la gestion de cette crise-là pour ne pas qu'elle puisse se reproduire dans notre espace et garantir la paix à l'ensemble des Burkinabés.
Le ministre burkinabé de la communication et porte-parole du gouvernement, Rémi Dandjinou.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, rencontré pour la première fois depuis un peu plus de 5 ans, Pascal Affine-Guessan, président du Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. De quoi a-t-il été question dans cette rencontre et que signifie-t-elle dans le cadre du processus ivoirien de réconciliation nationale? Idrissa Seydoudia a contacté à Abidjan notre confrère Alexis Tano du quotidien Le Jour Plus.
La rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le chef de l'opposition, le président du FCI, a traité sur les questions relatives à la crise post-électorale dans un premier temps et surtout dans un deuxième temps sur le processus démocratique en Côte d'Ivoire.
Les conclusions qui ont été tirées après la réunion?
Le président du FCI, M. Pascal Affine-Guessan, au sorti de la rencontre, a déclaré que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a pris des engagements fermes, notamment la question du dégel des avoirs des responsables du Front populaire ivoirien, sur la question de la libération des prisonniers politiques, sur la question également du découpage administratif et sur la question de la CEI, la structure qui est chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Et d'après le président du FCI, le président de la République a prêté une oreille attentive et que les discussions se sont passées dans de bonnes conditions et qu'ils ont foi que les problèmes qui ont été soulevés trouveront solution auprès du président de la République.
Est-ce qu'il a été question de Laurent Gbagbo dans cette réunion?
Non, pas du tout.
Cette réunion avait été présentée comme un signe de
crispation.
Voilà, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, est-ce que M. Afinguessan représente vraiment le FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il n'est pas contesté au sein de ce parti?
De toute évidence, la partie dirigée par le président Pascal Afinguessan est fortement contestée au niveau du Front populaire ivoirien. Mais pour les institutions de la Côte d'Ivoire, c'est cette partie qui est reconnue par la justice ivoirienne, qui est reconnue par les pouvoirs de la République de Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre-là, c'est chaque fois qu'il y a eu le pouvoir d'Abidjan a eu besoin de discuter avec l'opposition, c'est la partie dirigée par Pascal Afinguessan qui a été convoquée. Et c'est cette partie-là jusque-là qui a mené la discussion dans le cadre du dialogue politique ivoirien. Il va sans dire que l'autre partie, qu'on appelle les radicaux ou encore Gbagbo ou rien, ne veut pas l'entendre de cette façon. Mais le pouvoir a fait un choix et dans ce choix-là, la justice les y accompagne.
C'était d'Abidjan, Alexis Tano du quotidien Le Jour Plus. Cap sur la Guinée-Bissau, un pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'en finit pas d'être en crise. Le PAIGC au pouvoir est divisé en deux, tout comme l'Assemblée nationale. Les habitants vivent dans l'angoisse dans cette nation habituée au coup d'État. Pour un éclairage, Idriss Fall a joint sur place notre correspondant Noah Mankali.
Il faut dire que la Guinée-Bissau en ce moment traverse une profonde crise depuis la chute du gouvernement dirigé par Domingos Simon Frera, ex-secrétaire exécutif de la communauté des pays de langue portugaise, CPLP.
Et pourquoi? On se rappelle lui-même, le président l'avait limogé en tant que premier ministre. Est-ce que c'est ça la cause?
Oui, on peut chercher les causes depuis la chute du gouvernement de Domingos Simon Frera, qui dirigeait le PAIGC. Ce limogeage du premier ministre Domingos Simon Frera, aujourd'hui nous vivons ces conséquences qui sont arrivées jusqu'à aujourd'hui où le Parlement bissau-guinéen est totalement divisé. Car il y a deux partis qui sont au Parlement. Nous avons deux présidents de Parlement à partir du 18 janvier dernier. Il y avait le président du Parlement, Cipriano Gassama, qui est du PAIGC. Le deuxième président est celui du Parti de Rénovation Sociale, PRS, avec 41 députés à l'Assemblée nationale populaire, qui a fait une alliance, qui a formé une alliance avec les 15 députés du PAIGC exclu de cette partie pour avoir, selon le PAIGC, ces 15 députés avaient trahi le parti puisqu'ils n'ont pas voté le 18 dernier le programme de gouvernance de Carlos Correa qui a substitué le premier ministre Domingos Simon Frera.
Donc maintenant, on a presque l'équivalent de deux parlements. Qu'en est-il de gouvernement? Qui est-ce qui gouverne la Guinée-Bissau?
Nous avons deux parlements, mais un seul gouvernement. Le gouvernement est celui de Carlos Correa. Mais par contre, l'autre parlement qui vient de naître considère à partir du 18 dernier que le gouvernement dirigé par Carlos Correa n'est pas légitime. Et ce parlement, dirigé par le chef de file de l'opposition, Albert Nambéa, avec 41 députés à l'Assemblée nationale populaire, qui a fait une alliance avec les 15 députés du PAIGC qui sont exclus, plus un député du Parti de la Nouvelle Démocratie, PND. Donc, ils ont pu tenir leur session le 18 dernier et ils ont remis la résolution au président de la République qui, jusqu'à présent, José Mario Vaz, ne s'est pas prononcé, puisque dans leur résolution, ont décidé de destituer le gouvernement dirigé par Carlos Correa, mais ainsi que le président de l'Assemblée nationale populaire, Cipriano Gassama.
Noah Mankali, correspondant de VOA Afrique à Bissau.
Un plaisir de vous retrouver, chères auditrices et auditeurs de VOA Afrique, dans Carrefour Sciences et Santé de samedi à 18h30, dimanche à 20h30 et mardi à 18h05, temps universel. Si vous voulez vous procurer de l'huile riche en protéines, les insectes en constituent la source. La première fleur a fleuri dans l'espace, c'est un zinnia à découvrir dans Carrefour. Aux amateurs automobiles, une voiture intelligente se profile à l'horizon, vous n'aurez pas besoin de la conduire. La balle de match, le Powerball, la technologie et le hasard vous offrent l'opportunité de devenir millionnaire aux États-Unis. Ne ratez pas votre Carrefour. Spider-Man, votre héros à rencontrer, pourrait vous échapper. Eric Manilakiza sera en votre compagnie.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Seigneau. Présentation, Morgane Gaillac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et partagez vos questions, vos commentaires. Vous pouvez même poster vos photos et vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos. 24 sur 24.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.